de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, vendredi 25 octobre 2019, et comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et modernisée, l'arbre suivante, magazine culturel, l'Indonésie en couleur, et avant de terminer cette émission, vous allez écouter une chanson indonésienne. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le président a de nouveau souligné l'unité de la vision et la mission du gouvernement indonésien. Le ministre de l'Agriculture, Syahrul Yasin Limpo, décide d'unifier les données sur l'agriculture, y compris les données sur les stocks de riz. En conférence Notre Océan, l'Indonésie montre son sérieux face à la gestion des déchets plastiques en mer. Edi Prabowo promet de continuer à couler les navires de pêche illégales. La Malaisie renforce son coopération avec le gouvernement de la province d'Aceh. La Suède est prête à aider à atténuer les catastrophes en Indonésie par des sociétés privées. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a souligné à tous les ministres et aux représentants de l'État au niveau ministériel de ne pas travailler sur la base de la vision et de la mission du ministre. Tous les assistants présidentiels doivent travailler avec une vision et une mission commune du président et du vice-président. Cela a été déclaré le président lors de la première séance plénière du cabinet au Palais Merdeka jeudi, en présence du vice-président Ma'ruf Amin et de tous les ministres du cabinet d'Indonésie avancé.
Bahwa tidak ada visi-misi menteri. Yang ada adalah visi-misi presiden dan wakil presiden.
Il n'y a pas de vision ni de mission du ministre. Ce qui existe, c'est la vision et la mission du président et du vice-président. Donc, il y a un parapluie légal. Si cela a été décidé lors d'une réunion, il n'est pas nécessaire d'en discuter en dehors de la session. S'il vous plaît, discutez lors de la réunion. J'écoute, mais si c'est décidé, nous devons le faire. En outre, le chef de l'État a également souligné que tous les ministres doivent travailler ensemble dans une seule unité, pas par secteur. Jokowi ne veut pas que ses ministres travaillent sans coordination et communication avec le ministre chargé de la coordination. L'intégration des données et de l'agriculture, y compris le stock de riz, devient un objectif initial qui sera défini par le ministre de l'Agriculture, M. Syahrul Yasin Limpo. Après avoir été inauguré ministre de l'Agriculture, il expliquait que dans un mois jusqu'aux 100 premiers jours de son mandat, il va égaliser les données agricoles, y compris les données sur les stocks de riz, afin d'éviter toute confusion due à de nombreuses données provenant de nombreuses sources. Il a déclaré que le gouvernement doit avoir une donnée approuvée par tous les partis afin que le gouvernement ait le pouvoir d'émettre des politiques relatives au secteur agricole.
Langkah pertama saya untuk satu atau satu bulan pertama sampai 100 hari itu adalah
ma première étape pour le premier mois ou jusqu'à 100 jours de travail est à égaliser les données. Il ne doit pas y avoir deux ou trois données. Nous devons avoir les données exactes et valides sur lesquelles nous sommes d'accord. Nous ne devons pas utiliser deux ou trois données. Par conséquent, nous connaissons les variables, la puissance des données et où notre problème se produit, nous pouvons le voir. Nous utilisons l'intelligence artificielle dans le cadre de l'industrie 4.0 pour détecter à travers les nuances existantes. Par conséquent, pour voir les récoltes, nous n'avons pas besoin de rapport, on peut le voir par satellite. De plus, le ministre Syahrul Yassin Limpo a déclaré que lors de son mandat de ministre de l'Agriculture pour la période 2019-2024, l'Indonésie pouvait progresser dans le secteur agricole. Le secteur agricole peut être une solution pour la résilience nationale. Par conséquent, il poursuivra les réalisations du secteur agricole qui ont été réalisées précédemment et il compte faire des efforts pour réduire le nombre d'importations de produits alimentaires. L'Indonésie était présente à la conférence Notre Océan 2019 à Oslo en Norvège. L'Indonésie a une mission importante. L'un d'entre eux est l'engagement de réduire les déchets plastiques en mer. Ceci est conforme à l'engagement pris par les pays du monde de réduire conjointement les déchets plastiques dans la mer en 2025. Comme l'a déclaré le chef de l'Organisation et des relations publiques de la Direction générale des transports maritimes, Yann Prastomo Ardi, au forum, a rapporté jeudi par Republika. Il a déclaré que le gouvernement indonésien s'était engagé à réduire 70% les déchets plastiques dans l'océan en 2025. L'un des efforts consiste à coopérer avec des parties prenantes provenant d'hommes d'affaires, de groupes de la société civile et d'acteurs locaux afin de lutter contre la pollution plastique dans l'océan et le continent qui est la principale source de production de déchets plastiques. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre de Maritime et de Pêche, M. Edi Prabowo, a promis de continuer des mesures prises par Susi Pujiastuti, entre autres à couler des navires et que le naufrage du navire était en mousse. Mais le naufrage du navire doit être effectué avec prudence, notamment en ce qui concerne l'utilisation de chantrans et d'autres préjudiciable aux pêcheurs. Jusqu'à présent, beaucoup de politiques de l'ancien ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Mme Susi Pujiastuti, faisaient progresser le secteur de la pêche. L'un d'entre eux est d'encourager la compétitivité des pêcheurs indonésiens. Par conséquent, les bonnes politiques précédentes seront maintenues. L'ambassadeur de Malaisie en Indonésie, Datuk Zainal Abidin Bakar, a déclaré qu'il continuerait à renforcer la coopération de la Malaisie avec le gouvernement de la province d'Aceh, parce que Aceh a beaucoup de potentiel, notamment dans le secteur du tourisme. Comme cité par Antara, Datuk Zainal Abidin Bakar à Banda Aceh récemment a déclaré que son équipe a examiné un certain nombre de potentiels dans la province avec le gouverneur par intérim de la province d'Aceh, Nova Iriansyah. Il a mentionné plusieurs domaines qui ont été discutés lors de la réunion, à savoir le tourisme, l'éducation, l'économie et les investissements. Le gouvernement provincial d'Aceh et la Malaisie ont une relation historique, une fraternité et des similitudes, de sorte que cela devenait l'une des considérations pour renforcer de nouveau la coopération dans de nombreux domaines. Le gouvernement suédois est prêt à aider l'Indonésie à renforcer la résilience aux catastrophes et à mettre à jour le système d'atténuation des catastrophes par le programme d'encouragement des investissements du secteur privé dans le pays. Selon Antara, l'ambassadrice de Suède en Indonésie, Marina Berg, estime que de nombreuses entreprises suédoises sont disposées à investir en Indonésie pour contribuer à la gestion des catastrophes. Elle a déclaré à Antara récemment à Jakarta qu'elle avait lancé le programme de résistance aux catastrophes par l'entité commerciale depuis l'année dernière. et qu'il est en train de rassembler les parties prenantes, à savoir le secteur privé, des groupes de la société civile, des autorités internationales et indonésiennes. Cela a été fait dans le cadre du partenariat entre le gouvernement indonésien et la Suède. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et un pour le titre avant le sommet de l'ASEAN et la République de la Corée. Le sommet de l'ASEAN et de la République de Corée a lieu à Busan en Corée du Sud du 25 au 27 novembre. La réunion marquera les relations étroites entre l'ASEAN et la Corée du Sud depuis 1989. Le sommet préparera également un schéma directeur des relations entre l'ASEAN et la Corée pour les trois prochaines décennies. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur sud-coréen auprès de l'ASEAN, basé à Jakarta, Lim Sung Nam, lors d'un forum de dialogue organisé par le Club des correspondants étrangers de Jakarta, JFWC à Jakarta, jeudi le 24 octobre 2019. Depuis novembre 2017, la politique étrangère de la Corée a changé à travers de la nouvelle politique du Sud. La mise en œuvre de la nouvelle politique du Sud est axée sur le 3P, à savoir les personnes, la paix, la prospérité, spécifiquement avec l'Indonésie et l'ASEAN. Lim Sung Nam a également exprimé son engagement à établir un partenariat économique entre la Corée du Sud et l'ASEAN, dirigé par l'Indonésie, équivalent quatre pays puissants dans les environs. La coopération étroite entre l'ASEAN et la Corée du Sud renforcera la coopération entre la Corée du Sud et l'Indonésie, qui peut être développée du commerce et des produits de base à l'échange de main d'œuvre, de technologie et d'aide culturelle. Il a également exprimé son espoir de créer une communauté de prospérité partagée à travers une coopération économique mutuelle avec l'Indonésie, afin de contribuer à la paix en Asie à travers de la coopération en matière de sécurité. L'objectif est que le volume des échanges bilatéraux atteindra 30 milliards de dollars en 2020 et plus de 50 milliards de dollars à long terme. Qu'en est-il de la Corée du Nord? Lors du 33e sommet de l'ASEAN à Singapour en novembre 2018, le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, a proposé que le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, soit invité au 30e anniversaire de la coopération entre l'ASEAN et la Corée du Sud en novembre. Selon le président Joko Widodo, cette invitation encouragera la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne. Il a également encouragé cette réunion, ainsi l'engagement de la Corée du Nord sera encore plus fort pour prendre des mesures en faveur d'une péninsule coréenne sans armes nucléaires. Depuis cinq décennies, l'Indonésie a établi des relations bilatérales avec la Corée du Nord et appuie pleinement la situation de paix durable dans la péninsule coréenne. Bien qu'il ait été mentionné qu'il participerait au sommet, jusqu'à présent, rien ne garantit que le chef Kim Jong-un donnera suite à l'invitation. Il reste encore un mois pour améliorer la communication de diplomatie des parties vis-à-vis de la Corée du Nord afin que le 33e sommet de l'ASEAN puisse se dérouler de manière optimale. Nous espérons que l'Indonésie pourrait jouer un rôle stratégique dans ce domaine. Enfin, le sommet entre l'ASEAN et la République de Corée apportera la paix dans la région de l'ASEAN, la péninsule coréenne, y compris le monde international. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 25 octobre. Le 25 octobre 1945, les Alliés ont débarqué 6000 troupes de la division 49 dirigée par le général de brigade Aubertine Walter Southern Mellaby à Surabaya pour désarmer les troupes japonaises. Les troupes du général Mellaby font partie des forces alliées néerlandaises Indes orientales, AFNEI. Ces forces alliées étaient envoyées à l'Indonésie après la fin de la Seconde Guerre mondiale pour désarmer les troupes japonaises et libérer des prisonniers de guerre japonaises. Ils étaient chargés de ramener l'Indonésie dans les Indes orientales néerlandaises sous le régime néerlandais et sous l'administration de la NICA, ou de l'administration civile des Indes néerlandaises. Malabi a conduit cette troupe à entrer Surabaya le 25 octobre 1945. Cet objectif a suscité la résistance des forces indonésiennes car Afni leur a demandé de rendre les armes qui avaient été confisquées par la partie indonésienne du Japon. Plusieurs conflits armés ont éclaté entre les deux forces, dont l'un s'est passé le 30 octobre 1945 près du pont rouge de Surabaya. Cette bataille a tué le général Malabi. La mort du général Malabi a déclenché la publication de l'ultimatum britannique et l'explosion de la bataille du 10 novembre 1945, commémorée comme la journée des héros. Le 25 octobre 1962, Nelson Mandela a été condamné à 5 ans de prison. Nelson Mandela est une figure assez célèbre dans le monde entier. Il est un combattant de la liberté à travers des activités anti-apartheid et il est devenu plus tard président de l'Afrique du Sud. Mandela a lutté fermement contre l'apartheid. En raison des activités anti-apartheid, plusieurs fois, il était puni. Le 5 août 1962, Mandela a été arrêté et emprisonné dans le fort Johannesburg. Plus tard, le 25 octobre 1962, il a été condamné à 5 ans de prison et le 12 juin 1964, lui et un groupe d'autres militants ont été condamnés à l'emprisonnement à vie. En février 1990, Nelson Mandela a été libéré de prison. En 1993, ensemble avec le président F.W. de Klerk, il a reçu le prix Nobel de la paix. Le 25 octobre 2010, le tremblement de terre aux îles Mentawai a tué 415 personnes. Le 25 octobre 2010, il y a eu un séisme d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter au large de la côte Sumatra. Selon United States Geological Survey, le séisme a eu lieu à 21h42 heure locale, à environ 240 km à l'ouest de Bengkulu, près des îles Mentawai. United States Geological Survey rapporte également que l'épicentre du séisme s'est produit à une profondeur de 206 km, basé sur le centre d'alerte au tsunami du Pacifique. Le séisme a provoqué un tsunami d'une hauteur pouvant aller de 3 à 10 mètres et au moins 77 villages ont été détruits. Environ 415 personnes auraient été tuées et 296 autres étaient rapportées disparues. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Dari cintaku takkan pernah. kini kamu ada dalam pelukku. Habiskan waktu bersamaku. Sementara emosi kita musnahkan semua cerita yang ada tentang kita. Hentikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku. Sesungguhnya ku mau kau kembali jadi milikku lagi. Tanyakan pada hatimu, baby, hey, masihkah kau punya rasa cinta itu hanya untukku? Hentikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Permets-moi » chantée par Abdul. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Et voici la rubrique « Mon Indonésie ».
Chers amis de l'antenne, pour la rubrique suivante, voici donc « Mon Indonésie » et pour le titre « Les économistes et la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Indonésie se félicitent de la composition des ministres de l'économie. Le président indonésien Joko Widodo a officiellement installé les membres du cabinet pour la période 2019-2024 au Palais d'État mercredi le 23 octobre. Accompagné du vice-président Kyai Haji Ma'ruf Amin, le président Joko Widodo a installé 34 ministres et 4 responsables au niveau ministériel. Les hommes d'affaires et les économistes ont notamment souligné les rangs des ministres de l'économie. Le président Joko Widodo a nommé Airlangga Hartarto comme ministre de la coordination de l'économie, Sri Mulyani, ministre des Finances, Agus Suparmanto, ministre du Commerce et Agus Gumiwang Kartasasmita, ministre de l'Industrie. La Chambre de commerce et d'industrie indonésienne, Kadin, s'est félicitée de la formation du cabinet du président Joko Widodo et du vice-président Ma'ruf Amin pour la période 2019-2024. Kadin a estimé que cette formation était le meilleur choix qui doit être respecté et soutenu par toutes les parties pour le progrès de la nation et de l'État. Le président de Kadin, Rosan P. Ruslani, a déclaré que sa partie appréciait les réalisations du gouvernement jusqu'à présent et se félicitait de la composition du cabinet choisi par le président. En tant que partenaire, Kadin renforcera les synergies avec le gouvernement, notamment dans la mise en œuvre de plusieurs programmes qui seront gérés par le nouveau cabinet et soutient la réalisation de ZIDO, faisant l'Indonésie en paix développée avec un revenu de 320 millions rupiah par habitant en 2045. La Chambre indonésienne de commerce et d'industrie, Kadin, a également estimé que la formation du cabinet Jokowi Ma'ruf Amin pour la période 2019-2024 pouvait répondre à divers défis qui caractérisent encore l'économie indonésienne. Rosan P. Ruslani est optimiste que la formation d'un nouveau cabinet peut réduire le problème du déficit du compte courant, du déficit de la balance commerciale, du déficit budgétaire, des problèmes de licence des affaires, des problèmes de pauvreté, de la qualité des ressources humaines, des fondements structurels tels que l'efficacité, productivité à l'emploi. Youssouf Rendy Manilet, économiste au Centre de réforme économique au COR de l'Indonésie, a déclaré que la nomination de certains ministres dans le domaine économique était appropriée, notamment l'élection de Airlangga Hartarto au poste de ministre chargé de la coordination des affaires économiques et de Sri Mulyani Indrawati, qui est retourné à ce poste le ministre des Finances. Yusuf Rendy Manilet également déclaré que les deux noms avaient beaucoup d'expérience dans la bureaucratie. Cela peut apporter une valeur ajoutée et facilitera Erlanga et Sri Mulyani lors du prochain processus de travail. Grâce à cette expérience, l'exécution des politiques dirigées par le président Joko Widodo pourrait être réalisée plus rapidement. Serjitor, c'était mon Indonésie pour ce soir.
C'était la deuxième chanson intitulée « Essitant sans poignée » chantée par Danila. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta, de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.ovanews.id. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel. Thank you.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel introduisant la destination numérique Puri Bambu à Jabavès. Le 11 octobre dernier, le ministre du Tourisme Arif Yahya a inauguré la destination numérique Puri Bambu à Bojongkoneng, Cimenyan, en région Bandung, Jawa West. Selon Arif Yahya, avec la présence de cette destination numérique Puri Bambu, les millénaires ont plus de choix lors de leur voyage. Arif a ajouté que la destination numérique présente un contenu rarement disponible. Les spots sont également instagrammables et il y a trois belles vues. Il y a des forêts de bambou, des spots de lever du soleil et la lumière de la ville. Selon Agus Firman Zelani, chef du bureau du tourisme de la région Bandung, les touristes de Puri Bambu ont manifesté beaucoup d'enthousiasme, notamment des spectacles culturels, de la musique live, des ateliers et des offres culinaires typiques de Cimenyan, Bandung. Pour ceux d'entre vous qui souhaitaient visiter la destination numérique Puri Bambu, l'accès vers Cimenyan n'est pas difficile, en particulier depuis le centre-ville Jakarta. Cette zone touristique est également équipée de logements et d'hôtels. Située dans une région vallonnée, les prés se sentent tellement à cet endroit. La vue était belle. De l'est, vous pouvez voir le magnifique paysage naturel. Du sud, vous aurez droit à une vue sur la ville. Les lumières scintillantes de la ville à la nuit ajoute au magnifique paysage de cet endroit. Cette zone touristique est appelée destination numérique car toutes les activités promotionnelles et autres utilisent des plateformes de médias sociaux. En plus d'acheter et de vendre, les transactions utilisent également de l'argent numérique. Cette zone touristique porte le nom de Puri Bambu, de sorte qu'elle continue d'introduire le bambou parmi les matériaux locaux. Sans surprise, le bâtiment entier dans cette destination est dominé par le bambou. Pour protéger et améliorer leur apparence, le bambou est peint. En outre, l'art présenté est également basé sur le bambou et d'autres instruments de musique créative. Il y a tarawangsa, danse du paon, angklung saung mang ujo et d'autres. La cuisine est également disponible dans son intégralité dans cette zone touristique. Cimenyan est célèbre pour son potentiel culinaire sous forme de cassettes de manioc ou de peyum et de miel. En outre, vous devez essayer d'autres préparations alimentaires à base de manioc, de maïs, de farine de riz, de légumes et de la tubercule. Il existe également des boissons traditionnelles bandrek et bajigur, ainsi que du café en provenance de Jawa West. Chers amis, c'est le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle à notre radio. Au revoir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
kawan memanggilmu. Sekarang diriku membisu. Canda tawa pernah menjadi bahasa kita, namun semua telah berubah. Lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan ini? Straight away I gotta say, melihat kekasihmu bersamamu, you know I envy you. Tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Jangan jadi diriku lagi, 'cause I envy you. Aku merasa yang terutama, aku pun menganggap you're the love of my life. Ternyata kamu sudah bersama dia, sudahlah aku menghilang saja. Lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan ini? Melihat kekasihmu bersamamu, you know I envy you. Tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Jangan cari diriku lagi, 'cause I
Jukute tujur labu delir nizi di Fuzia Depi Jakarta MRC Dater Fidel Anak Terangten. Sete une chanson intitulée Je t'envie chantée par Billy Simpson. Vous êtes toujours avec nous la voix de delir nizi au monde. Chers amis, pour la revue suivante, voici Lir nizi en couleur.
Bonsoir chers auditeurs, vous écoutez toujours The Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. On se rencontre encore dans la rubrique L'Indonésie en couleur. Ce soir avec moi Audrey. Dans cette édition, on a le sujet Les étudiants ITS remportent 2 prix à Taïwan. Les étudiants indonésiens ont retrouvé leur réussite cette fois lors de l'événement Innotech Expo 2019. À Taïwan, les étudiants de l'Institut de technologie Sepuluh Reza Aulia
Rian Tama et Afif Pourwandi ont créé un détecteur de fatigue innovant appelé détecteur de fatigue pour machinistes, MAFTEC. Cette innovation a remporté deux prix en même temps lors de l'événement qui s'est achevé fin septembre. Taiwan Innotech Expo 2019 est un événement annuel majeur à Taïwan avec des entreprises, des associations et des étudiants du monde entier. L'événement qui a duré 3 jours au TWTC Exhibition Hall 1 à Taïwan avait pour thème Sustainability Innovative Invention Future Technology. Détermination de la fatigue des machinistes, MAFTEC, qui a remporté une médaille d'argent à l'Olympiade internationale de la jeunesse coréenne Kyo 41, a vu ses spécifications améliorées cette année. En détectant précédemment la somnolence du conducteur par les mouvements des yeux, MAFTEC utilise cette fois une nouvelle méthode qui consiste à détecter la somnolence par le biais de la fréquence cardiaque. Cette innovation s'accompagne également d'un contrôle en temps réel du niveau de fatigue d'un machiniste. Le chef de l'équipe MAFTEC Reza a expliqué que le fonctionnement de cet outil consistait à détecter la fatigue et la somnolence des machinistes, puis à émettre des vibrations. Cet outil permet de retrouver une personne fatiguée ou somnolente grâce au traitement informatique effectué sur la base d'une combinaison de clignements des yeux et de fréquences cardiaques. Reza a poursuivi si le conducteur est somnole. Cet outil va vibrer pour réveiller ses utilisateurs. En outre, cet outil peut également détecter la fatigue et la somnolence en temps réel via Internet, via le site web. J'espère donc que le centre de contrôle pourra connaître directement l'état du conducteur. Grâce à cette nouvelle méthode de détection innovante, MAFTEC a reçu une mention honorable lors de cet événement. Bien que cet outil puisse être considéré comme commun, mais la méthode que nous utilisons est nouvelle, à savoir la détection du rythme cardiaque et du clignement des yeux. Un autre prix obtenu est le prix spécial de l'Association coréenne de promotion des inventions, KIPA, car selon l'association KIPA, cette découverte pourrait être mise en œuvre sur un marché plus vaste. Non seulement appliquée dans le train, mais aussi dans d'autres secteurs du transport. Reza espère qu'à l'avenir, ce MAFTEC pourra être mis en œuvre dans le monde ferroviaire et être utile à la communauté. À l'heure actuelle, Reza et son équipe tentent toujours d'obtenir un processus de brevet pour cet outil. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur sur les étudiants ITS remportent 2 prix à Taïwan. On se rencontrera demain avec le sujet différent. Merci beaucoup, au revoir.
Ku tanam bersamamu. Takkan ku petik hingga akhir masa hidupku.
Toujours la voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter d'abord une chanson indonésienne.
Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et je vais présenter une chanson intitulée Caca Marica de la région de Nusa Tenggara Est. Anak Kambing Saya est une chanson folklorique de la province de Nusa Tenggara Est. Bien que c'est d'origine de Nusa Tenggara Est, cette chanson est largement connue des Indonésiens. Cette chanson est largement connue grâce au rythme agréable qui pousse les enseignants de maternelle et de primaire à l'enseigner à leurs élèves. La chanson Anak Kambing Saya est interprétée comme une chanson gay. Cependant, selon certaines personnes, cette chanson signifie que les parents recherchent leurs enfants. L'excitation dans cette chanson signifie la solidarité et l'amitié des enfants avec leurs parents. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée « Cha-cha Maricha » chantée par Elfa Singer. Bonne écoute.
Of Indonesia. Awak ia manor bandar Awak sora elele Ia awak tak tahu mana alor bandar Awak paling tua di tua tenasu Awak ia manor bandar Awak sora elele Ia awak tak tahu mana alor bandar Awak paling Banda fali awak bantu nadia Lahan kami imanur bandar Sambi bina kabete malinu koe bina Lihat muda fali mana alur bandar Awak iya manalur bandar Awak soda elelik Iya awak tak tahu mana alur Awali dua lenua tenasu, awa iya manor bandar, awa soda elele, iya awa tak tahu mana alor bandar, awa wali dua lenua tenasu, awa bandar wali awa batu nadea, lah kami manor bandar, sapi Nakabete malinu oe ena Lehia tunga fae mana alor banda
Chers amis, cette émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.